Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, et bienvenue dans les aventuriers du Pixel Perdu.
We're about to complete a great quest, the Holy Grail, Dr. Jones. Oh, rats.
Pas échappé, chers auditeurs et chères auditrices, que ce soir, c'est un petit peu comme si nous tenions salon chez Félix. Comme au XVIIIe siècle, nous buvons en devisant gaiement de sujets plus absurdes les uns que les autres, et ce, en très très bonne compagnie. Eh bien, figurez-vous qu'un autre salon se déroule au moment où nous parlons de l'autre côté du globe, et que tous les yeux du monde vidéoludique sont tournés vers celui-ci. Je veux bien sûr parler de l'E3. Et comme vous vous en doutez, les aventuriers du Pixel Perdu ont un avis là-dessus. Alors l'E3, ou l'Electronic Entertainment Expo, est un peu la grand-messe de l'industrie vidéoludique. Toutes les grandes compagnies viennent annoncer le retour du sauveur incarné par un jeu ou une console, aux promesses toujours plus mirobolantes, direction donc la Cité des Anges, où nous irons rencontrer les happy shiny people du jeu vidéo, et pour savoir si l'E3 est bien le lieu de la bonne nouvelle vidéoludique.
Hey guys! Good evening everyone, and welcome. And thank you for making the time tonight to come to church. This fulfills your obligation for the coming Sunday, for those of you who need to know that. But thank you. Thank you for coming out. It's great to see the congregation as large as it is tonight under this single tent. And for those of you who may be a bit apprehensive because you remember that movie Kingsman, it doesn't end that way. It doesn't end that way. So, but no, again, thank you. And as you can see from this evening, here again at PlayStation, we've decided to mix it up a little bit in the way that we're doing our E3 presentation this year. You know, we look at what the stories have to tell and the things that we want to impart to our fans here with us and our fans on the live feed worldwide. And that changes our design ideas around what we can do for this show. So tonight, we're going to have, rather than a bombardment of new creative, we're going to take all of you on a journey deeper into some of the key titles we've talked about before, but we're going to talk about them in a different way tonight, a deeper way, so you can learn about what's going on with these games and what's coming up in the future. You know, what we look at here at Worldwide Studios with inside Sony Interactive Entertainment, we really want to take our love for gaming and make it sing very loudly. It's a gaming industry, it's sometimes called, but certainly inside our studios, we see gaming as a vocation. It's a calling. It's what we do. It's what we have to do. Our teams of creatives and studios and designers, they have stories to tell and things they want to show you and places they'd like to take you. That's what we're trying to do here at PlayStation. This coming year is going to be all about those kind of games that we can deliver to you in a way that's going to blow your minds. And tonight, we're beginning here in this tent, this church tent we've created here in Los Angeles, to let you start that journey with us and let us tell you our stories for the next hour or so. So without further ado, it is my great honor and my...
Oui, donc voilà, là on vient d'entendre un petit peu un représentant de chez Sony nous parler de la culture vidéoludique et de cette église qu'ils ont créée ici à Los Angeles avec l'E3.
Oui, tout à fait. Bah, c'est une idée de. Enfin, l'E3, c'est toujours l'idée de ouais, ces grandes salles qui ressemblent à des églises immenses où on reçoit les fidèles d'un culte vidéoludique. Enfin, il y a d'immenses salles avec des écrans immenses sur lesquels on projette tous les nouveaux jeux qui vont paraître et tout le monde est évidemment extatique au moment où les jeux apparaissent à l'écran.
Oui, il ne faut pas oublier cet aspect monumental de la chose. C'est-à-dire, quand on arrive à l'E3, bon, on n'y est jamais allé, mais en tout cas, quand on voit les conférences de l'E3
sur YouTube.
il y a quand même cette impression d'immensité, de cette espèce d'immense centre des congrès de Los Angeles et de quelque chose qui est absolument colossal.
Mais d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire. À la conférence de Microsoft, ils ont essayé du gameplay de Forza Horizon 4, enfin un jeu de voiture. Et en fait, ils étaient sur, il y avait une dizaine d'écrans, il y avait une dizaine de personnes qui jouaient en même temps et qui étaient retranscrits sur l'image. Enfin, c'était ridicule, quoi. Ça
oui, voilà,
il
y a un
ridicule.
Côté. Et c'est vraiment l'idée de ces expositions, enfin de ces salons donc vidéoludiques, que nous, il nous semble qu'on peut les opposer à un autre type de manifestation.
On peut l'opposer, enfin c'est vrai que là on est dans une idée vraiment, on peut l'opposer aux conventions quoi. Les conventions, des choses qu'on retrouve, enfin convention du latin convenio, hein, évidemment, venir
toujours
ensemble.
Toujours un petit peu d'étymologie.
Toujours, monsieur Alibert, c'est pour vous. Toujours un petit peu d'étymologie. Donc, oui, vraiment, qui se rapproche de la réunion, du colloque et du rassemblement où les fans, justement, vont devenir co-créateurs d'une culture et qui va vraiment s'opposer un peu à tout ce qui est les salons vidéoludiques qui deviennent des grandes messes de la consommation. C'est les premières conventions qui vont être organisées par des fans. Enfin, on pense à l'exemple du Stunfest en France, à Rennes, qui existe depuis moultes années. J'ai oublié de me renseigner sur depuis combien de temps ils existaient, mais qui organisent des conférences et des tournois où le jeu vidéo va devenir vraiment un lieu d'expression. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans quelque chose où c'est plus un objet de consommation, c'est plus une expérience qu'on vient vendre. Hein, c'est Mathieu Triclot qui parlait, enfin qui reliait ça à des obédiences marxistes en parlant du fétichisme de la marchandise par rapport au jeu vidéo. C'est plus une expérience à vendre. Hein, le joueur, c'est plus un client comme dans ces trucs-là. C'est vraiment le co-créateur d'une culture.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression, moi, que dans les conventions, ça va être une discussion qui va s'organiser entre les créateurs et les utilisateurs, ou en tout cas les gens qui vont, les spectateurs peut-être, et que là, en fait, du coup, à l'E3, on va présenter ça comme un truc sorti de nulle part, une espèce de révélation qui apparaît, comme une espèce de religion révélée, alors que dans les conventions, on va parler du processus de création, on va en discuter, on va vraiment parler de l'objet comme une œuvre d'art. Alors que c'est vrai que dans des endroits comme l'E3, ça va être vraiment... ce qui est révélateur comme facteur, c'est qu'il y a peu de civils, entre guillemets, et que ça va être beaucoup de journalistes. Il va pas y avoir des gens qui se cosplay comme dans les conventions type Comic-Con, qui a quand même trouvé son lot de mercantilisme depuis peut-être une dizaine d'années, on va pas se mentir. Mais quand même, il me semble que l'E3, c'est vraiment l'apogée du mercantilisme en jeu vidéo.
Oui, et puis on est dans quelque chose aussi qui est beaucoup de l'ordre de la société du spectacle, hein, de Guy Debord, c'est-à-dire que on a des expositions, enfin des shows énormes pour ces trucs-là. On pense à la conférence d'Ubisoft cette année qui s'ouvre sur la présentation de Just Dance 2019. À chaque, évidemment, année, son jeu totalement... insipide, non mais FIFA 19, tout ça. Et du coup, oui, une équipe de danseurs live qui arrive sur scène, puis après pour le nouveau Trials, on a évidemment un homme, le concepteur de Trials, de ce nouveau Trials, qui arrive sur une mini-moto, qui arrive sur scène et qui hurle, il fait « Salut le 3 !» Et donc qui monte sur scène ensuite le présenter. Enfin, on est vraiment dans une vitrine, quoi. On a une logique de la vitrine, de quelque chose qui s'expose et qui essaye de séduire par cette exposition et par cette rutilance abondante.
Et c'est là qu'on pourrait rapprocher, du coup, le terme de salon en rappelant aussi son rapport avec l'industrie, et notamment l'industrie automobile.
Once again, the world changes completely with the seasons, bringing new driving experiences, new gameplay, and new events across the whole world. Every season, there are new reasons to play Forza Horizon 4, and the huge, creative, fun-loving Horizon community will be there to enjoy them with you. Today, you've seen a completely new take on Horizon. In Forza Horizon 4, you will live in a vast, beautiful world in which dynamic seasons change everything.
Oui, donc voilà, enfin là, on entend des moteurs de voitures absolument hurler. On a peut-être, enfin, si on ne savait pas de quoi on était en train de parler ce soir en direct sur Transistor, on pourrait se demander si on serait pas sur le salon de l'auto ou sur une pub de en voyant des Lamborghini faire des tours de circuit. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. J'ai l'impression à l'E3 que c'est une débauche de moyens, une débauche d'offrandes sacrifiées sur l'autel de l'industrie, et plus particulièrement l'industrie vidéoludique, qui s'inspire beaucoup de peut-être un petit peu la mère des industries à l'aube du capitalisme naissant à la fin du 19e siècle, qui est l'industrie automobile.
Oui, surtout quand on pense... Enfin, il y a quelque chose qui est très frappant. Enfin, qu'on retrouvera plus à la Paris Games Week ou à d'autres salons comme ça, mais une certaine aussi objectivisation de la femme qu'on retrouve dans les dans les salons de l'auto, mais qu'on va aussi retrouver dans les salons de jeux vidéo. En fait, où on a toujours des mannequins habillés de manière très sexy qui posent sur les stands de jeux et qui proposent des photos avec les visiteurs et ces choses-là. Et donc encore quelque chose de très attirant, de quelque chose de très séduisant et appâter le chaland, quoi. On
cherche
vraiment à appâter le chaland.
Surtout si on pense justement le capitalisme qui est vraiment l'idéologie dominante dans ce genre d'endroit, en lien avec le patriarcat qui devient une espèce de mélange des deux qui sert à faire vendre, en fait.
C'est ça.
Ce qui arrêtait ces dames, c'était le spectacle prodigieux de la grande exposition de blanc. Autour d'elles, d'abord, il y avait le vestibule, un hall aux glaces claires, pavé de mosaïques, où les étalages à bas prix retenaient la foule vorace. Ensuite, les galeries s'enfonçaient dans une blancheur éclatante, une échappée boréale, toute une contrée de neige, déroulant l'infini des steppes tendues d'hermine. L'entassement des glaciers allumés sous le soleil. Mais le foyer de clarté rayonnait surtout de la galerie centrale, aux rubans et aux fichus, à la ganterie et à la soie. Les comptoirs disparaissaient sous le blanc des soies et des rubans, des gants et des fichus. Les escaliers étaient garnis de draperies blanches, des draperies de piquets et de basins alternés, qui filaient le long des rampes, entourer les halls jusqu'au second étage. Et cette montée du blanc prenait des ailes, se pressait et se perdait comme une envolée de cygnes. On aurait dit un grand lit blanc, dont l'énormité virginale attendait, comme dans les légendes, la princesse blanche, celle qui devait venir un jour, toute puissante, avec le voile blanc des épousées.
Voilà, donc cette description de la couleur blanche omniprésente n'est pas sans rappeler à l'E3 de cette année, la conférence Microsoft autour de la Xbox. Bah,
tout est vert, tout la est conférence vert Sony, jusqu'... tout est bleu.
Voilà, c'est ça, les couleurs sont très importantes dans ce genre de conférence, et il y a cette espèce d'effet de fascination sur le public qui les plonge littéralement dans le monde vidéoludique, ils se sentent... investi.
Mais on a presque l'impression qu'on essaie de créer un réflexe visuel, c'est-à-dire que même dans la com autour sans le 3, mais que le vert c'est Microsoft, que le bleu c'est Sony, que voilà, IA c'était rouge cette fois-là, mais bon, IA peut prendre d'autres couleurs, mais c'est vraiment le bleu Sony, Microsoft vert, et du coup cet effet-là de aller chercher la fascination dans la couleur, aller chercher la fascination dans le visuel, enfin qu'on retrouve dans cet extrait de Bonheur des Dames d'Émile Zola.
Exactement. Mais ce qui est paradoxal cette année, moi, ce dont j'ai eu l'impression, c'est que il y avait quelque chose qui se passait, c'est-à-dire ce dont tu parlais la dernière fois, c'est-à-dire l'idée que on va essayer d'aller tâter du côté du milieu indépendant, du milieu un petit peu underground du jeu vidéo, pour essayer de se racheter une espèce de créativité qui semblait avoir disparu dans une espèce de défilement des années où on annonçait toujours un peu les mêmes jeux. Enfin, je veux dire Mario Galaxy, Mario Universe, etc. Et c'était toujours un peu la même chose. Et là, d'un coup, on essaye de ramener le jeu indépendant sur le devant de la scène.
Ouais, c'est ça. Bon, alors peut-être d'abord... Enfin, on le voit d'abord sur... pour des exemples, enfin, il y a Microsoft qui a fait toute une partie sur Microsoft Studios, qui montre tous les studios qu'ils ont rachetés. Ils ont racheté pas mal de studios indépendants, notamment Ninja Theory, qui avait accouché cette année de... Hellblade Sacrifice, je crois que c'est ça le nom, qui était un jeu un peu voilà, indépendant, édité par eux-mêmes et créé par eux-mêmes. Après, il y a aussi Electronic Arts qui a dévoilé tout ça, qui a reparlé, qui a laissé une grosse place à sa section EA Originals en présentant Sea of Solitude, donc un nouveau jeu indé. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a une volonté d'aller vers l'indépendant et vers ces choses-là. Mais peut-être que d'abord, il faudrait faire un petit topo sur le jeu vidéo indépendant et essayer de présenter un peu les grandes lignes rapidement. Le jeu vidéo indépendant, c'est une vague qu'on va placer vers la fin des années 2000 et qui va marquer un moment où ce sont plus seulement les grosses compagnies qui vont produire des jeux, mais ça va être aussi des anonymes, des particuliers qui les distribuent ensuite selon leurs propres moyens sur Internet. Il y a des plateformes qu'on connaît aujourd'hui majoritairement, c'est-à-dire Steam ou GOG, mais qui à l'époque étaient totalement novatrices et qui étaient de nouvelles manières de passé du jeu vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que le jeu vidéo indépendant, ça a été et c'est toujours un espace de libéralisation de la production vidéoludique qui va permettre notamment au jeu vidéo de gagner une légitimité en tant qu'objet culturel. Il me semble que c'est avec le jeu vidéo indépendant que le jeu vidéo n'est plus seulement un objet de consommation, mais qui devient un objet culturel. Parce qu'il va représenter déjà des idéologies. On l'a vu avec Papers, Please, dont on avait parlé. Ce genre de jeu, ou même
Copoca. Écoutez nos autres émissions.
Écoutez les autres émissions. Ou même Copoca, dont on avait parlé dans la même émission. Ou alors en étant le vecteur de nouvelles représentations. On pensera notamment à Undertale ou à des jeux comme Dream Daddy. Et donc, la scène indépendante de nouvelles représentations, voilà, de d'identité, qui était moins présente, enfin, où on était habitué quand même dans les grosses productions à des personnages surmasculinisés, survirilisés, comme dans le dernier God of War, par exemple. Et donc, la scène indépendante va permettre l'apparition de l'idée d'un jeu vidéo comme une possibilité d'expression, et plus seulement comme un objet à vendre. Donc, c'est des jeux qui vont généralement être absents des salons, ou qui vont avoir leur propre salon à eux, le Stunfest présente des jeux comme ça, mais qui donnent parfois lieu à des fanbases importantes et à des réunions, donc c'est-à-dire une émulation qui émane directement du public, et qui fait de lui le co-créateur d'une culture plus qu'un client, en fait.
Et oui, mais du coup, ces salons, donc ces grosses entreprises, ont un petit peu flairé le filon, enfin, je veux dire, quand EA a appelle cette espèce de catégorie, la catégorie Originals. Enfin, ça fait un petit côté, on revient à cette espèce de source fantasmée du mec qui est dans son garage et qui code son propre jeu, etc. Enfin, je pense que ça mobilise un imaginaire un petit peu comme ça. Et du coup, qu'il y a un côté de se faire de l'argent sur cette question du jeu indépendant, notamment, et on a pu le constater cette année à l'E3, ce qu'on pourrait appeler pinkwashing. C'est-à-dire qu'on va faire appel à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages principaux féminins, alors qu'avant, il y avait Lara Croft, et puis basta. Et là, beaucoup de personnages féminins et des personnages, notamment un couple de lesbiennes qui est
au début,
particulièrement mis en valeur au début
de
la conférence Sony, où on les voit en fait en train de s'embrasser d'un coup comme une espèce d'étendard comme ça, où Sony va se réclamer une espèce de défenseur, alors qu'en fait on a l'impression que c'est aussi une manière de se dire d'appâter peut-être pas forcément la presse spécialisée, mais peut-être la presse qu'on va appeler entre guillemets pop culture, les Combini et Inrecuptibles, quoi.
Ah oui, ça leur plaît, ils adorent ça. Enfin, c'est le moment où ils vont dire waouh, regardez, il y a des représentations de choses parallèles. C'est vrai que les jeux vidéo nous ont beaucoup habitués, enfin les grosses compagnies nous ont beaucoup habitués à présenter des jeux qui, à représenter des personnages ou des situations qui étaient inspirés des modèles courants. Enfin là, par exemple, on pensera au patriarcat tout de suite, c'est-à-dire que les grosses compagnies vont imposer et vont montrer des situations inspirées directement des genres, des identités sexuelles, des pratiques sexuelles, par exemple du patriarcat.
Du garçon comme guerrier, quoi.
Ouais, du garçon comme guerrier et tout ça. Alors que là, du coup, dans The Last of Us, parce que c'est un extrait de The Last of Us 2, je crois, du coup, il y a une représentation de la femme homosexuelle guerrière, parce que je crois qu'elle s'embrasse et après, il y a un combat de zombies. Et du coup, bon, c'est un peu... c'est un peu étrange, parce que ça veut dire... Enfin, on a l'impression... Déjà, c'est un type de discours qui était donc surtout... qui était surtout trouvable au niveau des jeux indépendants, parce que justement, les jeux indépendants incarnaient un peu cette prise de parole parallèle aux représentations dominantes, et qui permettait de représenter d'autres choses que ce que nous présentait la société dominante et la culture dominante. Et du coup, on a l'impression que les grosses compagnies essayent de s'encanailler et de faire de représentations de l'indé des choses mainstream, mais en même temps d'essayer d'en faire un argument de vente. J'ai l'impression qu'avec l'indé, en proposant des jeux indés, les grosses compagnies essayent vraiment de présenter une étiquette. Enfin, l'indé devient une étiquette, alors que c'est vraiment une manière de créer des jeux, en fait, à la base.
Thank you, Martin, and the brilliant team at Coldwood. The game is really strong. These guys have done an amazing job, and it's clear that they have a lot of passion, and I can't personally wait to play Unravel 2 with my kids. But what's even more amazing is that we will make Unravel 2 available to everyone today. Yep, you heard that right. You'll be able to take these two Yarnies on their next big adventure starting today. The game is finished, it's out.
Donc, à notre grande surprise,
le patron d'IA s'est tué.
Enfin, je crois que c'était Microsoft.
Non, c'était IA, je crois.
Bon, en tout cas, il présentait la sélection justement.
Original, IA Original, je crois que c'était IA Original.
Oui, bon, qu'importe, vous irez vérifier vous-même en vous tapant toutes les conférences.
Ah, un autre jingle peut-être.
Alors,
non, c'était pas pour nous.
Ça, c'était sur l'épisode sur les RPG. Bon, oui. Alors, du coup... nous étions en train de dire que, du coup, là, vous entendez donc le type de chez EA qui est en train de fièrement présenter sa petite écurie de créateurs indépendants en disant « Oui, I can't wait to play it with my son » et tout. Et vous êtes projeté dans une espèce de situation, j'ai l'impression, où, avec beaucoup de cynisme, les grosses compagnies vont s'emparer du jeu indépendant. Merci Félix.
Attends, resserre-nous un coup.
Resserre-nous un coup, parce que là, tu l'as bien.
Que là, écoute, c'est le moment.
Tiens, bon.
Évidemment, hein, l'abus d'alcool.
Et donc, du coup, où en fait, l'indépendant. Est-ce qu'on peut se demander si l'indépendant n'est pas un petit peu étouffé dans le processus ? L'indépendant qui aime le lieu de l'avant-garde, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'indépendant qui est le lieu d'une avant-garde, qui va créer des nouveaux moyens d'expression, des nouvelles formes, qui va expérimenter, qui va réfléchir au médium. Est-ce que du coup, le fait qu'il soit arrosé par l'argent, ça ne l'est un peu, réduit pas un petit peu à de simples joyaux de la couronne ?
Oui.
Vidéoludique de EA.
Bah, l'idée de s'accaparer l'idée d'un jeu vidéo indépendant et du coup de comment dire d'en faire une étiquette figée et quelque chose qui est plus un argument de vente qu'une vraie manière de faire des jeux, bah, c'est aussi tuer l'indépendant parce qu'on va aller chercher le public et on va aller chercher des niches en fait. C'est ça qu'ils veulent faire, c'est qu'ils vont chercher des niches et du coup ils vont être plus attirés vers comment dire. Si des grosses industries commencent à faire du jeu vidéo indépendant ou quelque chose qui se rapproche d'une image de l'indépendant, eh ben, ce qui va se passer, c'est que ils vont être plus attirés par ces grosses. Les joueurs vont aller vers les grosses industries parce qu'elles ont plus de moyens. Ça va être de l'indépendant, mais avec des meilleurs moyens en fait.
C'est
une idée de l'indépendant qui va aller avec plus de moyens.
Exactement. Et puis d'autant plus que ce dont on peut avoir l'impression, c'est aussi que cet indépendant là qui est un petit peu racheté par l'industrie, ce qu'on va garder, ça va être le vernis, la patte. Esthétique de l'indépendance, c'est-à-dire des graphismes qui sont pas tout à fait ce dont on a l'habitude,
oui.
Ou des choses comme ça, mais que derrière, enfin ça va être une question de forme, alors que le fond derrière, il ne sera plus du tout là, c'est-à-dire le truc où on va essayer de dérouter un petit peu le joueur, il ne sera plus du tout là. Et en fait, on pourrait se demander, finalement, si du coup l'industrie vidéoludique emprunterait pas la même voie que l'industrie cinématographique, en plus on est en Californie, à Los Angeles, donc
tout concorde,
et où on pourrait se dire que d'un coup le producteur devient prescripteur. Par rapport aux créateurs, quoi. Alors que là où c'est intéressant pour les festivals qui ne sont plus des salons mais plutôt des conventions qui s'attachent à une certaine réflexion, une co-réflexion sur le médium, et bien là du coup c'est plus le prescripteur et le créateur et tout ça, enfin ça devient une espèce de démarche plus peut-être démocratique.
Oui, bah oui, surtout que ce qui va se passer aussi pour ces grosses industries là, c'est que, enfin, elles cherchent vraiment de l'exotisme, c'est-à-dire que l'indépendant, pour eux, c'est un terrain exotique, avec des... Eux, ils habituent les joueurs à quelque chose qui est toujours de l'ordre du réalisme à tout prix, du réalisme qui va toujours plus loin, de toujours représenter de manière réaliste les personnages. Et là, du coup, on va aller vers des représentations un peu plus cartoonesques, ou un peu plus pastelles, ou un peu plus colorées, et moins réalistes, du coup. Et c'est ça un peu qu'on cherche, c'est ça la patte graphique dont tu parles. Et en même temps, il y a aussi cette idée que le jeu vidéo indépendant va s'intéresser plus à des choses personnelles, des choses individuelles, des choses peut-être plus, un peu plus psychologiques aussi. Et moi, c'est ce que j'ai vu un peu dans Sea of Solitude, c'est-à-dire qu'on a l'impression que des fois, ça ramasse un peu tout ce qu'on a déjà vu dans des jeux vidéo indépendants.
Ouais.
On va ouvrir. Il fait chaud, excusez-nous. C'est l'été. Et du coup... ce qui se passe, c'est que ouais, Sea of Solitude de EA Original, ça peut être un très bon jeu, hein, je peux pas le juger à l'avance, mais ça ressemble un peu à un ramassage de tous ces trucs qu'on a vus chez les indés, et comme si EA avait choisi un projet, de financer un projet qui ressemblait beaucoup à ce que fait la scène indépendante depuis des années, ou tout ce que ramasse la scène indépendante depuis des années, quoi.
Moi, ça me rappelle vraiment quand Adidas se met à relancer des vieux modèles de vieilles Adidas, tu vois, un peu pour les hipsters du
oui,
bled,
oui,
et
oui,
en appelant ça Adidas Originals. Enfin, pour moi, c'est vraiment la même chose, quoi.
Oui, bah c'est ça, on crée un circuit qu'on pense comme parallèle pour des populations qui... Enfin, pour des catégories sociales qui se pensent un peu en marge. Et en fait, on les atterre juste dans un autre piège à pognon, quoi.
Mais c'est ça, et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est le genre de jeux qui sont là en disant... alors, en France, hein, après, c'est toujours pareil, mais...
Oui, oui.
Ou en tout cas, on va dire, en gros, hein, Occupe Cible, faites un article là-dessus, quoi. Pour
c'est
moi,
ça.
C'est vraiment...
C'est ça, bah, c'est le genre de jeu où ils apparaissent et... ouais, EA pour Sea of Solitude, encore une fois, je juge pas, mais c'est lui qui prend tout. Sea of Solitude, c'est typiquement l'article. Moi, j'attends un article des Inrocks dessus, un article de Combini dessus, un article de tous ces trucs-là, parce que c'est typiquement le truc qui va les attirer. Parce que justement, IL le met en avant comme quelque chose d'underground et quelque chose d'indépendant. Et du coup, ça va attirer. Enfin, c'est tout une histoire de. C'est encore de la société du spectacle. C'est tout ce qui est présenté tout de suite aux joueurs et tout ce qui va l'attirer. Et du coup, là-dedans. Eh ben, on perd vraiment la place de l'auteur, c'est-à-dire qu'on a des nouvelles vitrines du capitalisme qui sont dans ces salons du jeu vidéo et qui savent ramener ce jeu vidéo à des logiques de rendement, de visibilité, de communication et donc de production, parce qu'un bon jeu, ça reste un jeu qui marche. Et c'est, voilà,
et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on peut s'interroger sur justement les problèmes que rencontre le Stunfest.
Oui. Bah, le Stunfest cette année est en déficit par exemple, parce qu'il y a bah, manque de
alors
visiteurs.
Peut-être présentons un petit peu pour ceux
bah,
qui
le Stunfest c'est un festival de jeux vidéo qui met l'accent sur voilà, qui a deux grosses composantes, c'est-à-dire des conférences organisées par Cœur de Vandale qu'on a déjà vu sur YouTube ou sur jeuxvideo.com pour présenter des speedruns ou des choses comme ça, enfin organisées par d'autres gens, mais Cœur de Vandale est vraiment j'ai oublié son nom, Yann quelque chose, je suis désolé. Cœur de Vandale, Yann Chauvière, merci Félix. Je suis désolé, j'ai oublié le nom, merci. Donc Yann Chauvière et l'autre partie des tournois qui vraiment mettent en scène des joueurs qui viennent du public.
Il y avait
public,
des gens comme Usul qui étaient passés par
oui,
là.
Oui, des gens comme Usul, Karim Debbache.
Voilà, des gens qui vraiment réfléchissent sur le médium, c'est-à-dire qui prennent pas le jeu vidéo comme une industrie, mais vraiment comme un art. Et là, oui, oui. Je trouve qu'il y a vraiment une différence qu'on pourrait vraiment poser si on se réfère au cinéma pour essayer de faire une espèce, pour créer des catégories pour penser le jeu vidéo.
Faisons des catégories.
On a d'un côté l'industrie qui se retrouve à Los Angeles comme par hasard, et de l'autre le Stunfest qui se trouve en France et qui considère le jeu vidéo comme un art.
C'est ça. Bah, qui va essayer de proposer quelque chose de parallèle et qui va essayer de garder dans l'idée d'indépendance et dans l'idée du jeu vidéo indépendant quelque chose qui relève vraiment du parallèle, d'une voie différente de quelque chose qu'on nous propose à part des représentations classiques que propose le jeu vidéo
et capitaliste. Puis qui peut-être est plus en accord avec le dispositif fondamental du jeu vidéo qui est quand même l'interactivité, alors que le Stunfest ça va être inviter des journalistes qui vont servir d'intermédiaire entre l'industrie
dans le 3, tu
dans le 3 oui, qu'est-ce le 3. Que j'ai dit
t'as dit le Stunfest
pardon donc dans le 3 où on invite donc des journalistes qui vont servir d'intermédiaire entre l'industrie et les joueurs, alors que le Stunfest ça va être une espèce de moment où on peut se retrouver, où on peut essayer de penser le jeu vidéo tous ensemble entre joueurs et créateurs.
Tout à fait, c'est ça.
Donc voilà, c'était le mot de la fin des aventures du Pixel Perdu. On remercie bien entendu Félix pour son travail à la régie et on annonce l'émission suivante qui est Errance avec Mae.